toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour Votre Santé, Votre Avenir, présenté par Nanit Talani. La consommation des stupéfiants continue de bouleverser de nombreuses vies à travers le monde. D'après l'ONU, le taux de prévalence de la consommation rien qu'en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale est supérieur de 10% aux moyennes mondiales, établies à 4,4%. Alors que 10% des consommateurs de drogue en Afrique sont des femmes, seulement 9% de cette population reçoit un traitement pour des troubles liés à la toxicomanie dans ce continent, qui reste aussi une zone de transit pour les stupéfiants destinés au marché européen, avec des saisies de cocaïne estimées à 80 tonnes entre 2019 et 2023 seulement en Afrique de l'Ouest. Quelles sont les principales motivations qui poussent les individus, notamment les jeunes, à expérimenter et à continuer la consommation de stupéfiants malgré les risques connus pour la santé et le bien-être? Comment ces stupéfiants impactent-ils négativement la vie des consommateurs? Quelle aide et quels traitements sont disponibles pour les personnes dépendantes aux stupéfiants? Et surtout, que faire pour prévenir la consommation de ces stupéfiants?
Ils prennent un certain goût à ce médicament et le but de ce médicament, c'est tout simplement d'avoir un bien-être, d'avoir un bien-être, de se sentir bien, de se reposer et tout. Mais le fait qu'ils le prennent de manière illégale et de manière répétitive, c'est parce que ce médicament a transcendé les hormones. C'est-à-dire qu'il est entré dans leur cerveau, dans leur sang, et puis ils se mettent à le prendre de façon non contrôlée.
Quelles sont les questions dont nous discuterons avec le docteur Simeon Nomo, psychologue clinicien et spécialiste des addictions? Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Voici le moment de suivre l'interview que nous a accordé le psychologue Simeon Nomo, spécialiste des addictions. Cette discussion nous aidera à explorer les mécanismes qui poussent les individus vers la consommation des drogues, les effets dévastateurs de la dépendance et les voies possibles vers la guérison, tout en abordant les stratégies de prévention et de traitement. Merci beaucoup, docteur, d'être notre invité pour cette émission. Nous parlons du danger des stupéfiants et comment les gens qui sont sous influence de ces stupéfiants peuvent s'en sortir. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle stupéfiant, docteur?
Merci de m'avoir dans cette émission. Je suis psychologue clinicien et je suis spécialiste des addictions. Répondre à cette question nécessite assez de temps. Je vais être tout simplement bref, donner les points essentiels. Un stupéfiant, c'est un médicament non légal. C'est une drogue. Lorsque vous la prenez en dose mineure, en dose simplifiée, elle vous excite, soit peut-être à lire beaucoup, elle vous excite, soit à vous relaxer beaucoup ou suffisamment. Elle vous procure une joie intense. Mais maintenant, le même stupéfiant, la même drogue prise de manière exagérée va développer en vous l'habituation, ce qu'on appelle l'addiction. Et dès que vous vous habituez à ce stupéfiant, votre comportement, qui était celui de la relaxation, qui était celui de la gaieté ou de l'éveil moral, l'éveil du cerveau à pouvoir travailler, passe à une autre vitesse, d'où l'addiction.
Ok, docteur, qu'est-ce qui pousse les gens à consommer ces drogues de cette façon assez désordonnée, de façon qui n'est pas médicalement admise?
Je l'ai dit tantôt, un stupéfiant, c'est un médicament qui est illégal, que certaines personnes prennent pour satisfaire un besoin. C'est-à-dire que pour avoir un effet peut-être agréable, un effet de bonne humeur. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à le prendre de façon
non autorisée?
En fait, ils ne le font pas d'eux-mêmes. Le fait qu'ils ont senti l'effet de ce médicament dans leur corps, ils ont la tendance à le reprendre à nouveau. ils prennent un certain goût à ce médicament. Et le but de ce médicament, comme je l'ai dit au départ, c'est tout simplement d'avoir un bien-être. D'avoir un bien-être, de se sentir bien, de se reposer et tout. Mais le fait qu'ils le prennent de manière illégale et de manière répétitive, c'est parce que ce médicament a transcendé les hormones. C'est-à-dire qu'il est entré dans leur cerveau, dans leur sang et a développé un goût. Et puis, ils se mettent à le prendre de façon non contrôlée. Et ils ne comprennent plus les effets de ce stupéfiant dans leur corps, dans leur organisme.
Alors, docteur, y a-t-il des signes de la dépendance à la drogue qui peuvent alerter?
Oui, on peut ne pas détecter des signes, c'est-à-dire des signes visibles. Mais nous savons que, par exemple, la jeunesse aujourd'hui a développé un certain nombre de plaisirs exogènes, c'est-à-dire que des plaisirs venant de l'extérieur, qui les pousse à vouloir démontrer qu'ils sont efficaces. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le jeune veut démontrer qu'il est plus compétitif que l'autre, il est plus efficace que l'autre, et qu'il peut faire telle ou telle chose plus que l'autre. Voilà des signes. Je prends un exemple, les femmes. Ce sont des facteurs qui poussent les jeunes à vouloir prendre des drogues. Ils se disent, il faut que j'aille démontre à ma copine que je suis efficace, que je suis bien. Autrement dit, elle va me quitter. Ça, c'est d'un. De deux, l'attirance du matériel. C'est-à-dire que je dois montrer à ma copine que j'ai de l'argent. Et pour que j'ai de l'argent, il faut que je me dope, pour que je sois plus courageux, que je développe un courage au-delà de ce qui est normal, pour pouvoir soit casser une maison, pour pouvoir être agressé casser une banque, casser, je sais pas moi, détourner, voler, afin de satisfaire ma copine. Vraiment, je prends une image comme celle-là pour rester dans ce cadre, afin qu'on comprenne qu'est-ce qui peut pousser le jeune à vouloir prendre du stupéfiant. Donc, je dois satisfaire ma copine, je dois satisfaire ma petite amie, ou alors vice-versa. La petite amie veut satisfaire son garçon, son petit gars, et il ou elle se jette pieds et poings liés dans la prise de stupéfiants. Et ils savent très bien que c'est illégal, mais parce qu'ils ont pris goût au départ, c'était simplement une expérience qu'ils voulaient expérimenter, une expérience qu'ils devaient avoir, basée peut-être sur un conseil d'un ami qui leur a dit, voilà, essayons par exemple ci ou ça. Et donc, après ça, ils tombent dans ce qu'on appelle l'addiction, c'est-à-dire le goût de la prise de ce stupéfiant.
Ok, mais ce goût s'accompagne certainement des risques. Est-ce qu'il y a des risques physiques et psychologiques liés à la consommation de la drogue?
Bien sûr, il y a beaucoup de risques, madame. Je vous assure. D'abord, si je prends l'exemple des opioïdes. Les opioïdes sont des drogues prescrites médicalement. Et le médecin va vous dire que c'est contre les douleurs fortes, les douleurs sévères. Mais illégalement, des individus se lancent dans les opioïdes parce que voilà, le mal de tête ne cesse. Et puis ils s'y lancent et puis ils commencent à les prendre. Les opioïdes, par exemple, Sébastan, méthamphénopine. Ces opioïdes, ces médicaments sont très dangereux et ça a des effets néfastes dans l'organisme. Je vais prendre des dimensions parce que quand nous faisons les évaluations psychologiques de ces personnes déjà addictives des opioïdes ou bien des stupéfiants, nous partons sur la base de 6 étapes, c'est-à-dire que 6 modèles ou 6 sessions. Nous commençons généralement par évaluer la dimension biologique. La dimension biologique qui est celle de l'intoxication que le stupéfiant va avoir dans le corps du sujet. Donc les intoxications, quels sont les risques qui sont associés, n'est-ce pas, à cette prise de stupéfiant par ce garçon. Et dans cette dimension biologique, lorsque nous l'avons évalué, s'il n'y a pas d'intoxication grave, ok, on va tout simplement procéder à ce que nous appelons la thérapie. Mais s'il y a des conséquences graves, des risques graves qui peuvent dégénéré sur le plan biomédical, c'est-à-dire que la condition médicale de celui-ci a été entamée. Il y a par exemple une maladie chronique qui s'est assise et tout ça. Alors, nous faisons de la référence, nous le référons. Bon, maintenant, il y a une autre dimension que nous appelons la dimension psychologique. C'est-à-dire que la dimension psychologique, c'est-à-dire cognitive, ou bien comportementale, ou bien même émotionnelle. Vous voyez, quand quelqu'un a fini de prendre la drogue, sur le plan émotionnel, son sourire n'est plus un sourire net. Voyez-vous, il n'a plus un sourire adéquat, un sourire net, comme je dis. Il, de façon exagérée, va montrer ses dents. Ses yeux commencent à être larmoyants, le comportement moteur est lent, c'est-à-dire l'action de son corps, ses mains, sa démarche, il titube, ainsi de suite. Et ça, l'évaluation peut nous pousser à consulter un psychiatre pour une prise en charge psychiatrique, une prise en charge médicamenteuse. Et comme je dis, c'est un niveau de fonctionnement assez grave.
Est-ce qu'il y a des options de traitement pour venir en aide à ceux qui sont dépendants de la drogue? On précise bien la drogue qu'on prend de façon illégale et anarchique.
Bien sûr, c'est ce que je disais. La drogue illégale, la drogue anarchique, c'est ce qu'on appelle la dépendance de la drogue des stupéfiants. Je disais que la dimension biologique, elle est là. Nous l'attaquons, c'est-à-dire que lorsque nous avons évalué le degré d'acuité intoxicationnelle, il y a une intoxication potentielle, on va travailler dessus, on va voir quels sont les risques que le client, le sujet ouvre, n'est-ce pas, dans ce domaine-là. Donc maintenant, il y a également dans cette même dimension, il y a la partie B qu'on appelle la dimension médicale. Quels sont les médicaments que le sujet doit prendre au cas où il y a une chronicité, c'est-à-dire que cette stupéfiant ont développé dans son corps, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, il y a ce qu'on appelait la dimension psychologique, qui est également celle de l'évaluation cognitive, comportementale et voire même émotionnelle. Parce que la condition du sujet addict à la drogue illégale est une condition psychologiquement entamée. Et nous nous rassurons que s'il a été entamé psychologiquement, ça veut dire que son comportement va évoluer vers l'extrême, vers le négatif, vers la sévérité. Et cette sévérité-là nécessite, n'est-ce pas, la consultation d'un psychiatre.
Alors, docteur, comment prévenir la consommation illégale des stupéfiants de façon générale dans la société, mais surtout auprès des jeunes?
La prévention passe par la responsabilité de l'État à réduire la vente ou alors l'accès, réduire l'accès de ces stupéfiants aux jeunes. Je sais, ce que je viens de dire là, c'est presque une utopie, mais c'est une responsabilité néanmoins. Si les États dans le monde entier pouvaient contrôler de façon sérieuse à réduire ces stupéfiants, je crois que la jeunesse n'aurait pas moyen d'y arriver. Et il est vrai que certains États ont mis sur pied des stratégies pour contrer cela. Par exemple, la police qui veille à ce que dès qu'on vous a trouvé avec un stupéfiant, on vous arrête, ainsi de suite. La répression va intervenir. Mais je disais, l'État va devoir faire ça. Maintenant, l'État a aussi d'autres moyens, et ça c'est un moyen aussi important. Quiconque a senti que son stupéfiant qu'il a commencé à prendre dans sa vie ont développé des inaptitudes en lui, cette personne peut se rendre dans un milieu de soins. Et il en existe cinq. On en existe cinq niveaux de soins à ce moment-là. Si vous êtes prêt à vous y engager, ce n'est pas forcément, comme je parle de la dimension biomédicale, ce n'est pas forcément l'hôpital que vous devez vous limiter. Vous devez également essayer de vous lancer à ce que nous appelons le niveau des soins intensifs. Maintenant, l'autre point de salut, ma foi, c'est vraiment la prière. Vous savez, rien n'est impossible à Dieu, rien. Et si vous, un temps soit peu, après vos sessions de thérapie avec votre clinicien, vous pouvez vous remettre entre les mains du Seigneur, et il va vous guérir, parce que Dieu guérit, je crois que Dieu guérit aussi les individus qui souffrent des maladies liées aux stupéfiants.
Je vous remercie, docteur.
De C'est moi qui vous remercie.
C'est la fin de notre entretien avec le docteur Siméon Nomo, psychologue clinicien et spécialiste en addiction. À présent, nous vous invitons à suivre Carnet de santé avec Normandie.
Cette semaine, dans Carnet de santé, nous jetons un regard sur le cancer du col de l'utérus. Et le docteur Oluwasanmi Akintade, directeur de la santé reproductive à la Fondation Elisabeth Glaser au Lesotho, nous en dit plus sur ce type de cancer. De plus, des fonds d'investissement dans la recherche pour un patch à vaccin anti-Covid à ARN messager. Enfin, les végétaliens célèbrent une décennie de véganuary. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette édition de Carnet de santé. Une femme meurt toutes les deux minutes d'un cancer du col de l'utérus. Selon l'Union internationale contre le cancer, l'Afrique subsaharienne a le taux de cancer du col de l'utérus le plus élevé au monde. Un vrai tueur silencieux, les experts affirment que ce cancer se développe très lentement et peut prendre des années, voire des décennies. Les symptômes précoces les plus fréquents d'un cancer du col de l'utérus comprennent des saignements survenant en dehors de la période des règles, spontanément ou après des rapports sexuels, des douleurs dans la région pelvienne et du sang dans les urines lorsque la maladie est avancée. Selon les experts, la très grande majorité des cancers du col de l'utérus sont liés aux infections à papillomavirus humain ou HPV, virus très répandu qui se transmet par voie sexuelle. L'OMS affirme qu'on peut guérir du cancer du col de l'utérus s'il est diagnostiqué à un stade précoce et traité rapidement. Suivez ce reportage.
Janvier est le mois de la sensibilisation au cancer du col de l'utérus dans le monde entier. Le cancer du col de l'utérus est une forme de cancer qui affecte les cellules du col de l'utérus dans l'organe reproducteur féminin à l'échelle mondiale. L'un des cancers les plus fréquents chez les femmes, selon l'OMS.
Le cancer du col de l'utérus est le quatrième cancer le plus répandu chez les femmes dans le monde et 85% des cas de cancer du col de l'utérus surviennent dans les pays à faible revenu ou intermédiaire.
Le cancer du col de l'utérus est causé par le virus du papillome humain, ou VPH, souvent transmis par contact sexuel. Il peut être prévenu par la vaccination et le dépistage et peut être traité s'il est détecté tôt. Selon les experts, le taux d'incidence varie considérablement entre les pays et les régions en raison des différences d'accès au dépistage, au programme de vaccination et au traitement. L'Organisation mondiale de la santé avertit que le manque d'accès contribue à 90% des décès et la plupart d'entre eux se produisent en Afrique. Cependant, chaque femme est à risque de développer un cancer du col de l'utérus.
Certaines pourraient penser que ce n'est pas quelque chose dont elles doivent s'inquiéter. Cependant, le cancer peut survenir chez toute personne qui a un col de l'utérus et il est donc vraiment important de comprendre les moyens de se protéger avec un dépistage pour l'identifier tôt et le traiter avant qu'il ne devienne intraitable.
Pour réduire l'incidence du cancer du col de l'utérus chez les femmes en Afrique, l'Union internationale contre le cancer recommande, entre autres, de couvrir les services de lutte contre le cancer du col de l'utérus dans les forfaits de soins de santé de base, d'utiliser les plateformes de tests existantes pour d'autres maladies, telles que le VIH et la tuberculose, afin d'améliorer la surveillance, le dépistage et la prise en charge du cancer, et intégrer la prévention, le dépistage et les soins palliatifs dans d'autres programmes de santé.
Que savez-vous du cancer du col de l'utérus et vous sentez-vous concerné par cette maladie? Voici quelques réactions recueillies au Nigeria.
En fait, je ne sais rien à ce sujet. Alors, pouvez-vous m'éclairer?
Je sais que le cancer du col de l'utérus est le cancer qui affecte les zones utérines et beaucoup de femmes dans tous les pays, en particulier en Afrique, en souffrent. Et c'est juste dommage d'avoir ce type de maladie en Afrique.
Et vous savez, autant la sensibilisation au VIH est présente partout, autant le cancer du col de l'utérus ne l'est pas. J'ai donc l'impression que ça devrait être quelque chose dont on parle toujours, que ce soit en janvier ou en février ou durant n'importe quel autre mois. mois de l'année, il faut qu'il y ait une prise de conscience parce que c'est un problème qui devient très répandu et qui concerne les femmes.
J'avais une cousine que j'ai perdue à cause de ça. Ce n'est pas une bonne chose à voir.
Bien sûr, cela me préoccupe parce que je veux aussi faire un contrôle pour le cancer du col de l'utérus. Surtout quand on vieillit à partir de 35 ans. Il faut toujours commencer à penser à sa santé plus qu'à sa richesse.
Ma question aux experts serait la suivante. Vous êtes conscient de ces choses? Comment pouvons-nous aider les femmes à prévenir le cancer du col de l'utérus plus tôt et mieux? Merci.
Le docteur Oluwasanmi Akintade est directeur de la santé reproductive au Lesotho de la Fondation Elizabeth Glaser Pediatric AIDS, EGPAF. Il nous en dit plus sur le cancer du col de l'utérus.
Il existe des facteurs de risque pour qu'une femme développe un cancer du col de l'utérus. Et certains de ces facteurs de risque comprennent les abus sexuels précoces. D'abord, la grossesse à un très jeune âge, avoir des partenaires sexuels multiples qui augmentent le risque de l'individu de contracter plusieurs virus. Nous avons l'utilisation du tabac qui compromet l'immunité de la personne et l'intégrité des cellules du col de l'utérus. Nous avons un état immunodépressif, quelle qu'en soit la raison, en particulier chez la femme vivant avec le VIH, qui augmente le risque de développer un cancer à partir des cellules. Les femmes qui vivent avec le VIH ont un risque plus élevé de développer un cancer du col de l'utérus. Il est environ 6 fois supérieur à celui des femmes qui ne vivent pas avec le VIH. Normalement, lorsqu'une personne est infectée par le virus du papillome humain, la plupart du temps, elle ne présente aucun signe d'infection et la majeure partie du temps, notre corps est capable d'éliminer complètement ce virus. Cependant, chez environ 5 à 10% des femmes, pour une raison ou une autre, la patiente ne sera pas complètement guérie, ce qui signifie que le virus restera dans son corps. Donc, cette femme ne présentera pas de signes. Au moment où elle aura les signes ou les symptômes, la vérité est qu'il est trop tard. Ainsi, les femmes devraient commencer le dépistage à partir de 25 ans si elles vivent avec le VIH. Et pour les femmes qui ne vivent pas avec le VIH, elles peuvent commencer le dépistage à partir de 30 ans. L'objectif est donc de détecter des changements très précoces dans le col de l'utérus qui sont des indicateurs de signes alertant que si rien n'est fait, les individus ont la possibilité de développer un cancer du col de l'utérus. La méthode de dépistage la plus précoce utilisée est donc le frottis vaginal. L'autre test couramment utilisé est l'inspection visuelle à l'acide acétique. Ainsi, après avoir appliqué de l'acide acétique, qui est comme le vinaigre commun que nous utilisons à la maison, nous sommes en mesure de voir des changements de couleur blanche, des taches blanches sur l'ouverture de l'utérus, que nous appelons col de l'utérus, ce qui montre qu'un processus est en cours. Oui, cependant, à l'avenir, de plus en plus de pays adopteront le test de virus du papillome humain, qui est le plus sensible de tous les tests et le plus précis. Les tests HPV permettent de détecter le virus à l'origine du cancer, ce qui signifie que nous n'avons pas besoin d'attendre que les changements anormaux commencent à se produire pour déterminer que le processus ou l'organisme à l'origine du cancer est déjà présent dans le col de l'utérus. Et une fois que nous en prenons note, nous pouvons mettre en place un traitement le plus tôt possible. La stratégie pour éradiquer le cancer du col de l'utérus repose sur 3 piliers. Il s'agit premièrement de la vaccination des filles entre 9 et 14 ans, en veillant à ce qu'au moins 90% de nos filles soient totalement vaccinées contre le virus du papillome humain à l'âge de 15 ans. Ainsi, si une femme est entièrement vaccinée contre le virus du papillome humain, cela signifie que lorsque cette femme rencontrera le virus au cours de sa vie productive, son corps sera capable d'attaquer complètement ce virus envahissant et de l'éliminer complètement. Le deuxième pilier est l'utilisation d'une méthode de dépistage de haute précision. Et le dernier pilier de la stratégie est que toutes les femmes qui développent ce que nous appelons des précancers, qui sont les anomalies que vous voyez avant de développer un cancer, ou celles qui développent un cancer, au moins 90% d'entre elles devraient recevoir un traitement.
La Coalition pour les innovations en préparation aux épidémies, CEPI, a annoncé qu'elle fournirait jusqu'à 4,3 millions de dollars à la société de biotechnologie Vaxas, qui développe un patch à vaccin à ARN messager qui pourrait faciliter la lutte contre le COVID-19. Les vaccins basés sur la technologie de l'ARN messager développés par Pfizer Biotech et Moderna sont parmi les plus utilisés dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. COVID, mais ils nécessitent un stockage ultra froid avant utilisation. Selon la CEPI, le patch de Vaxas pourrait remédier à cet inconvénient en supprimant le besoin de stockage ultra froid, en facilitant la distribution et en offrant un dosage précis et sûr avec un minimum de déchets. La CEPI a aussi annoncé un investissement de 50 millions de dollars sur 10 ans pour soutenir l'Institut Pasteur du Sénégal dans la fabrication des vaccins pour les pays du Sud. Par ailleurs, l'OMS a lancé un appel pour plus de 2 milliards de dollars en 2023 afin d'aider des millions de personnes confrontées à des urgences sanitaires dans le monde. L'organisation affirme que toutes ces urgences se chevauchent avec des perturbations massives des systèmes de santé causées par la pandémie de COVID-19 et d'autres maladies mortelles comme la rougeole et le choléra. Le véganisme est un mouvement qui a pris de l'ampleur ces 10 dernières années sur le plan mondial. Les plats végétaliens ne sont plus seulement accessibles dans les restaurants à la mode, mais aussi dans des communautés dites traditionnelles. Regardez.
Tout a commencé comme une simple idée créée par un couple dans leur chalet de York. Leur objectif à petite échelle était de fournir un groupe de soutien aux personnes qui pourraient être tentées d'abandonner la viande comme résolution du nouvel an.
Il y a beaucoup de groupes qui disent aux gens les raisons d'essayer un régime végétalien, mais il n'y a pas assez de gens qui se concentrent uniquement sur le soutien aux personnes qui veulent essayer un régime végétalien. C'était donc vraiment le début de Veganuary.
Selon les organisateurs de Veganuary, l'abandon de la viande et des produits d'origine animale est devenu plus qu'un phénomène britannique ou même européen. Vernelli dit que la popularité croissante du véganisme est motivée par une combinaison de raisons. Au-delà d'une préoccupation concernant le bien-être animal, la santé et le bien-être des personnes sont une priorité. L'obésité et les maladies cardiaques sont maintenant considérées par les scientifiques comme des contributeurs majeurs à de nombreuses maladies chroniques. Il y a aussi une prise de conscience croissante des dommages causés à l'environnement. Vernelli dit que le mouvement a été important pour montrer aux gens les avantages de réduire la consommation de viande.
Et ces dernières années, environ un tiers des participants ont choisi de rester végétaliens après avoir trempé du métal dans l'eau pendant un mois. Et ils ont compris que cela est plus facile qu'ils ne s'y attendaient. Sur le reste, environ 75% disent que je ne vais pas rester végétalien, mais que je vais réduire d'au moins 50%.
Indy Kaur est un consultant qui a développé des gammes de produits sans viande pour les grands supermarchés britanniques. Il pense que les bienfaits pour la santé devraient être une priorité et que les gens devraient être encouragés à réduire les consommations de viande et de produits laitiers plutôt que de les supprimer complètement.
Nous devrions probablement commencer à penser que les plantes sont liées à la santé, s'orienter plus vers un calendrier de réduction de la viande par rapport à l'agenda végétalien. Il est important que nous prenions en compte nos besoins végétaliens, mais il faut également que nous commencions à nous concentrer sur la santé et la durabilité du système alimentaire.
Veganuary est devenu un mouvement populaire avec des chapitres dans 7 pays, dont l'Allemagne, les États-Unis et le Chili. Les analystes du marché affirment qu'il faudrait un certain temps avant que l'impact de ce mouvement puisse être évalué.
Voilà la fin de cette édition de Votre Santé, Votre Avenir. Notre invité, le docteur Siméon Nomo, psychologue clinicien et spécialiste en addiction, a expliqué la nature des stupéfiants, les motivations qui poussent les individus à les consommer de manière illégale, ainsi que les impacts physiques et psychologiques associés à leur usage. Il a souligné l'urgence de traiter le problème de la consommation illégale de stupéfiants, en particulier parmi les jeunes, tout en offrant des perspectives encourageantes sur les options de traitement disponibles et le rôle crucial de l'État dans la mise en place de politiques de prévention, de sensibilisation, ainsi que l'importance de l'accompagnement médical et psychologique pour ceux qui cherchent à se libérer de l'emprise des drogues. Le docteur Siméon Nomo a par ailleurs évoqué la dimension spirituelle dans le processus de guérison et aussi la collaboration entre les institutions, la communauté médicale et la société dans son ensemble est essentielle pour forger un avenir où la dépendance aux drogues illégales est non seulement mieux comprise,
mais aussi plus efficacement contrer. En plus, nous vous avions proposé Carnet de santé avec Lilor Moudou. Ce magazine santé a été présenté par Nanit Salani grâce à la réalisation de Michel Joseph. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.